Chapitre 9. Sidgo. 1. La lune du colporteur commença à décroître. Elle allait emporter avec elle le plus beau et le plus chaud de l'été. Un après-midi, 4 jours après son plein, le vieux mozo de la maison du maire, Miguel, était déjà là bien avant l'époque de Hart Thorin, et selon toute probabilité, il serait longtemps encore après que Thorin aurait réintégré son ranch, se présenta au logis que Suzanne partageait avec sa tante. Il menait une magnifique jument alezane par la bride. C'était le deuxième des 3 chevaux promis, et Suzanne reconnut Félicia immédiatement. La jument avait été l'une de ses préférées pendant son enfance. Suzanne étreignit Miguel, couvrant ses joues barbues de baisers. Le vieillard aurait souri de toutes ses dents si seulement il lui en était resté une.
« Gracias, gracias, merci 1000 fois, vieux père, lui dit-elle.
« De nada,
lui répondit-il en lui tendant la bride.
« Présent d'art du maire. »
Elle l'accompagna du regard et son sourire s'effaça peu à peu sur ses lèvres. Félicia se tenait docilement à ses côtés, sa robe d'un brun foncé luisait comme un rêve sous le soleil d'été. Mais ça n'avait rien d'un rêve. Ça en avait eu l'apparence au début. Ce sentiment d'irréalité avait été une autre incitation à tomber dans le panneau. Elle le comprenait à présent, mais ce n'en était pas un. Elle avait prouvé son honnêteté. Voilà maintenant qu'elle était la destinataire des « présents d'art d'un homme riche ». L'expression sacrifiée bien sûr à l'usage. On pouvait aussi la voir comme une amère plaisanterie suivant son humeur et sa conception de la vie. Félicia n'était pas plus un cadeau que Pylône ne l'avait été. Il n'était que l'exécution au coup par coup des clauses du contrat auquel elle avait consenti. Tante Cord pouvait bien se montrer choquée. Suzanne savait la vérité. Ce qui l'attendait, c'était de la putasserie purement et simplement. Tante Cord se tenait à la fenêtre de la cuisine, tandis qu'elle rentrait son présent, rien d'autre qu'une restitution de ce qui lui appartenait aux yeux de Suzanne, à l'écurie. Elle lui lança une joyeuseté du genre que la jument était une bonne chose, car s'en occuper laisserait moins de temps à Suzanne pour ses ruminations. Cette dernière se retint de lui répliquer vertement. Les deux femmes avaient observé une trêve précautionneuse depuis leur prise de bec lors de l'épisode des Kazakhs. Et Suzanne ne tenait point à être celle qui la romprait. Elle avait trop de choses en tête et sur le cœur. Elle pensait que la prochaine querelle avec sa tante la briserait aussi simplement qu'une brindille sèche écrasée par une batte. « Parce que cette terre est souvent ce qu'il y a de mieux à faire », lui avait dit son père, quand vers l'âge de 10 ans, elle lui avait demandé pourquoi il était aussi silencieux. Si sa réponse l'avait troublée à l'époque, maintenant, elle la comprenait mieux. Elle installa Félicia à l'écurie, près de Pylône, la bouchonna et lui donna à manger. Tandis que la jument mâchonnait son avoine, Suzanne examina ses sabots. Elle ne goûta guère l'aspect des fers de la jument, trop front de mer pour elle. Aussi prit-elle au clou près de la porte de l'écurie la sacoche où son père rangeait les siens, la passa-t-elle en bandoulière et couvrit-elle les 3/4 de lieue qui la séparaient du relais et céleri hockey. Sentir la sacoche de cuir lui battre la hanche fit ressurgir l'image de son père, avec une netteté telle que le chagrin la tenailla avec une fraîcheur renouvelée, et lui donna envie de pleurer. Elle songea que sa situation actuelle l'aurait épouvantée, et peut-être même remplie de dégoût. Mais il aurait bien aimé Will Dearborn, de ça elle était persuadée. Il l'aurait apprécié, elle aurait approuvé, elle, de l'avoir choisi, lui. C'était la touche finale qui rendait le tableau si terrible. 2. Elle avait su ferrer un cheval depuis toujours, et y prenait même du plaisir quand elle était d'humeur. C'était salissant, primitif, avec toujours la possibilité de recevoir un bon coup de sabot dans les côtes pour soulager l'ennui et ramener une fille à la réalité. Mais de la fabrication des fers, elle ne savait rien et n'avait nulle envie d'apprendre. Brian Hookey les forgerait derrière son écurie hostellerie, toutefois. Suzanne choisit sans mal 4 fers neufs de la bonne taille, humant avec délice l'odeur de cheval et de foin fraîchement coupé. De peinture fraîche aussi. Les établissements Hookey avaient l'air en parfait état. Jetant un coup d'œil au toit de l'écurie, elle n'y détecta aucun trou. Hookey traversait une période florissante, semblait-il. Ce dernier inscrivit les nouveaux fers en haut d'une poutre, sans quitter son tablier de forgeron, et louchant horriblement d'un œil sur ses propres chiffres. Quand Suzanne évoqua d'un ton hésitant le paiement, il éclata de rire, lui disant qu'il savait qu'elle réglerait la note dès qu'elle le pourrait, mais oui, les dieux la bénissent. En plus, t'allais point s'envoler, tout ce temps qu'ils étaient, hein? Nenni nenni. Et là-dessus, il la poussa gentiment vers la porte. Un an auparavant, il n'aurait pas traité de façon aussi désinvolte même le plus simple achat de 4 fers à cheval. Mais à présent qu'elle était la bonne amie du maire Thorin, les choses avaient changé. Le soleil de l'après-midi était éblouissant après la pénombre de l'écurie Dookey, et Suzanne, brièvement aveuglée, se dirigea au jugé vers la rue. La sacoche de cuir ballottait sur sa hanche, et à l'intérieur, les fers s'entrechoquaient doucement. À peine eut-elle le temps d'entrevoir une silhouette dans l'éclat du soleil qu'elle l'avait déjà heurtée, et assez durement pour claquer des dents, elle fait résonner les nouveaux fers de Félicia. Suzanne serait tombée si des mains solides ne l'avaient prestement rattrapée par les épaules. Sa vision s'accommodant, elle s'aperçut, consternée et amusée, que le jeune homme qui avait failli la faire s'étaler de tout son nom dans la poussière était l'un des amis de Will, Richard Stockworth.
« Oh, mille pardons, saille !»
s'exclama-t-il, lui époustant les manches de sa robe, comme s'il l'avait effectivement renversée.
« Allez-vous bien? Allez-vous tout à fait bien ?»«
Tout à fait, » fit-elle en souriant. « S'il vous plaît, ne vous excusez point. » Elle se sentit soudain saisie de la folle envie de se hausser sur la pointe des pieds et de lui baiser la bouche en lui disant « Donnez-le de ma part à Will en lui disant bien de ne point tenir compte de ce que je lui ai raconté. Dites-lui qu'il y en a des milliers d'autres qui l'attendent là où celui-ci a pris sa source. Dites-lui de venir les prendre jusqu'au dernier. » Mais au lieu de cela, elle s'arrêta au comique de l'image suivante, celle de Richard Stockworth, becquetant Will à pleine bouche en lui disant que c'était de la part de Suzanne Delgado. Elle se mit à pouffer, porta ses mains à sa bouche, mais sans nul effet. Sy Stockworth lui sourit en retour, mais prudemment, en hésitant. « Il pense probablement que je suis folle alliée. Et je le suis. Oh, si fait !»« Bonne journée, messire Stockworth, » dit-elle, passant son chemin avant qu'elle ne se mette davantage encore dans l'embarras. « Bonne journée, Suzanne Delgado, » lui répondit-il. Elle se retourna une seule fois après avoir fait une cinquantaine de mètres dans la rue, mais il était déjà parti. Il n'était pas rentré chez Hookey, cependant. De cela, elle était tout à fait certaine. Elle se demanda ce que Messire Stockworth pouvait bien faire dans cette partie de la ville, pour commencer. Une demi-heure plus tard, comme elle sortait les nouveaux fers de la sacoche de son pas, elle le découvrit. Un morceau de papier était glissé entre deux fers. Et avant même de le déplier, elle comprit que sa collision avec Messire Stockworth n'avait rien eu d'accidentel. Elle reconnut l'écriture de Will immédiatement, d'après le billet dont il avait accompagné le bouquet. « Suzanne, pouvez-vous me retrouver à Sidgow ce soir ou demain soir? C'est très important. En rapport direct avec ce dont nous avons déjà discuté. Je vous en prie. Will. » P.S. Mieux vaut brûler ce billet. Ce qu'elle fit sur le champ. Et en regardant monter les flammes, puis en les voyant mourir, elle ne cessa pas de répéter en murmurant la phrase qui l'avait frappée le plus durement. Je vous en prie. 3. Suzanne et tante Corde mangèrent en silence leur frugal repas du soir, du pain et de la soupe. Et à peine terminé, Suzanne, chevauchant Félicia, gagna l'aplomb pour assister au coucher du soleil. Elle n'irait pas le retrouver ce soir. Ah non! Sa conduite impulsive et irréfléchie ne lui avait déjà que trop occasionné de chagrin. Mais demain? Pourquoi à Sidgo? En rapport direct avec ce dont nous avons déjà discuté. Oui, probablement. Elle ne doutait point de son sens de l'honneur, bien qu'elle en soit venue à se demander fortement si lui et ses amis étaient bien ce qu'ils disaient être. Il voulait probablement la voir pour une raison concernant sa mission. Bien qu'elle ne saisît pas le rapport entre le pétroléum et le trop grand nombre de chevaux sur l'aplomb. Mais quelque chose existait entre eux à présent. Quelque chose de doux et de dangereux. Ils commenceraient par parler, mais finiraient par s'embrasser. Et leur baiser ne serait qu'un début. Le savoir n'y changeait rien, cependant. Elle désirait le voir, avait besoin de le voir. À Califourchon, sur sa nouvelle jument, autre paiement anticipé de sa virginité par Hart Thurin, elle regarda le soleil s'arrondir et devenir rouge à l'ouest. Elle écouta le faible marmonnement de la tramée et, pour la première fois de ses 16 ans d'existence, se sentit vraiment déchirée par l'indécision. Tout ce qu'elle désirait s'opposait à sa notion de l'honneur, et le conflit faisait rage sous son crâne. Cernant le tout, comme le vent qui se lève assiège une maison branlante, elle sentait grandir l'idée du cas. Cependant, renoncer à son honneur pour cette raison était tellement facile, n'est-ce pas? Excuser la perte de sa vertu en invoquant la toute-puissance du cas. C'était là une douce pensée. Suzanne se sentit aussi aveuglée que lorsqu'elle avait quitté l'obscurité de l'écurie de Brian Hookey pour la rue ensoleillée. À un moment, elle versa en silence des pleurs de frustration sans même y prendre garde, colorant son moindre effort pour penser clairement et rationnellement. Il y avait son désir d'embrasser Will une fois encore et de sentir sa main se refermer sur son sein. Elle n'avait jamais été une fille portée sur la religion, n'ajoutait que peu de foi aux vagues dieux de l'entre-deux-mondes, si bien que, pour finir, le soleil une fois couché et le ciel au-dessus de son point de disparition virant du rouge au violet, elle tâcha d'adresser une prière à son père. Et elle obtint une réponse, mais qu'elle soit venue de lui ou de son propre cœur, elle ne sut le déterminer. Laisse le cas « prendre soin de lui-même », lui dit sa voix intérieure. « C'est ce qu'il fera de toute façon. Comme toujours, si le cas devait l'emporter sur ton honneur, il en sera ainsi. Entre-temps, Suzanne, toi mis à part, personne d'autre n'en prendra soin. Laisse aller le cas et prends soin de la vertu de ta promesse, aussi dure que cela puisse être. » « Très bien, » fit-elle. Dans son état actuel, elle découvrit que toute décision dût-elle se solder par le fait de ne plus revoir Will était un soulagement. « J'honorerai ma promesse. Le cas n'a qu'à prendre soin de lui-même. » Au cœur des ténèbres qui s'amoncelaient, elle émit un claquement de langue à l'adresse de Félicia et mit le cap sur son logis. 4. Le jour suivant était un dimanche, jour de repos traditionnel des cow-boys. La petite bande de Rolland le prit aussi. « C'est notre justice, » commenta Cuthbert, « puisque, pour commencer, on ne sait vraiment pas ce qu'on fait, bon sang. » Ce dimanche-là, le 6e depuis leur arrivée à Hambury, Cuthbert arpentait le marché d'en haut. Celui d'en bas étant bien meilleur marché, mais sentait trop la caque et le hareng à son goût, tout en essayant de contenir ses larmes à la vue de ponchos de couleur vive. Car sa mère possédait un poncho qu'elle aimait beaucoup, et de songer comment elle chevauchait parfois en le laissant flotter au vent, l'avait rempli d'un mal du pays d'une violence presque sauvage. Arthur Heath, le camail de Roland à qui sa maman manquait tellement qu'il en avait les yeux humides. C'était une blague bien digne, oui, bien digne de Cuthbert Allgood. Alors qu'il se tenait là à examiner les ponchos et aussi des couvertures d'Olina suspendues en enfilade, les mains derrière le dos comme le visiteur d'une galerie d'art, tout en continuant à refouler ses larmes, on lui frappa légèrement sur l'épaule. Il se retourna et se retrouva face à la fille aux cheveux blonds. Cuthbert n'était nullement surpris que Roland se fût amouraché d'elle. Elle était à couper le souffle, même en jean et chemise fermière. Sa chevelure était retenue en arrière par un écheveau de lanières de cuir, et elle avait les yeux du gris le plus lumineux que Cuthbert eût jamais vu. Ce dernier trouva que cela tenait du miracle que Roland eût pu continuer à se soucier des autres aspects de la vie courante, brossage de dents compris. En tout cas, elle apporta la guérison à Cuthbert. Sa crise de sentimentalisme regardant sa mère disparut instantanément. Sigh, dit-il. Le seul mot qu'il put prononcer, du moins au début. Elle acquiesça et lui tendit ce que les habitants de Mégis appelaient une corvette, petit paquet au sens littéral, petite bourse dans la pratique. Ces petits accessoires de cuir qui ne pouvaient contenir guère plus que quelques pièces étaient davantage portés par les dames que par les messieurs, bien qu'il n'y eût aucun diktat de la mode sur ce point. « Vous avez laissé tomber ceci, mon goujat, » dit-elle. « Que nenni, grand merci, Sigh. » Elle aurait très bien pu appartenir à un homme, en cuir noir, sans ornement ni froufrou, mais il ne l'avait jamais vue. Il n'avait jamais porté de corvette, d'ailleurs. « Elle est à vous, » dit-elle en le regardant si intensément qu'il ressentit comme une brûlure. Il aurait dû comprendre tout de suite, mais son apparition inattendue l'avait aveuglé, tout comme son ingéniosité. On ne s'attend pas à tant d'ingéniosité chez une fille aussi belle. Les belles filles n'ont pas besoin d'en avoir, en règle générale. D'après Bert, il suffisait aux belles filles de s'éveiller le matin.
« C'est la vôtre ?»«
Si fait, si fait, » dit-il, lui arrachant presque la bourse des doigts. Il sentit un sourire idiot illuminer son visage. « À présent que vous le dites, Sigh. Susan. » Ses yeux étaient graves et vigilants malgré son sourire. « Appelez-moi Susan. Je vous en prie. »«
Avec plaisir. J'implore votre pardon, Susan. C'est juste que ma jugette et ma mémoire en ce beau dimanche sont partis en vacances main dans la main. » Éclipsé, comme qui dirait, et m'ont laissé la tête vide, momentanément. Il aurait pu continuer à jacasser de la sorte une bonne heure de plus, ça lui était déjà arrivé, Roland et Alain pouvaient en témoigner, mais elle l'arrêta vivement avec le naturel d'une sœur aînée.
« Je comprends aisément que vous n'exerciez aucun contrôle sur votre tête, Messire Heath, pas plus que sur votre langue. »
Mais peut-être prendrez-vous plus de soin de votre bourse à l'avenir.
Bonne journée.
Elle était déjà loin avant qu'il ait pu émettre un son.
5. Bert trouva Roland là où on le trouvait souvent ces jours, sur cette partie de l'aplomb que nombre de gens du coin surnommaient le Belvédère. On y jouissait d'un beau point de vue sur Hambury, rêvassant dans la brume bleue d'un dimanche après-midi, mais Cuthbert doutait fort que ce fût ce spectacle qui attira sans cesse son plus vieil ami en ce lieu. À son avis, une raison plus plausible était qu'il pouvait y contempler à son aise la maison des Delgado. Ce jour-là, Roland était en compagnie d'Alain et ni l'un ni l'autre ne disait mot. Si Cuthbert n'avait pas de mal à accepter l'idée que certaines personnes puissent rester de longs moments sans se parler, il n'en pensait pas moins qu'il ne le comprendrait jamais. Il les rejoignit au galop et, plongeant sa main sous sa chemise, en tira la corvette.
De la part de Susan Delgado. Elle me l'a donnée au marché d'en haut.
Elle est très belle, mais aussi maligne qu'un serpent.
Cela dit avec l'admiration la plus absolue. Le visage de Roland s'anima, plein de feu et de vie. Quand Cuthbert lui lança la corvette, il l'attrapa au vol et tira sur le lacet avec ses dents. À l'intérieur, au lieu des rouges liards qui auraient conservé tout voyageur, il n'y avait qu'un simple morceau de papier plié. Roland le lut rapidement. Ses yeux perdirent leur éclat et son sourire s'évanouit sur ses lèvres.
« Qu'est-ce que ça dit ?»
demanda Alain. Roland le lui tendit et retourna à sa contemplation de l'aplomb. C'est en voyant une telle désolation dans le regard de son ami que Cuthbert eut pleinement conscience de la place que Susan Delgado avait prise dans sa vie, et dans la leur par voie de conséquence. Alain passa le mot à Cuthbert. Il ne comportait qu'une ligne. « Il est préférable de ne pas nous revoir. Pardon. » Cuthbert le lut deux fois, comme si cette lecture pouvait y changer quelque chose avant de le rendre à Roland. Ce dernier remit le mot dans la corvette, tira le lacet et fourra la petite bourse sous sa chemise. Cuthbert redoutait plus le silence que le danger, car dans son esprit, silence égalait danger. Mais toutes les idées qui lui vinrent pour entamer une conversation lui parurent pétries d'insensibilité et de puérilité, si l'on s'en rapportait à la tête que faisait son ami. Roland semblait avoir absorbé du poison. Si Cuthbert était dégoûté à l'idée que cette fille si charmante allait jouer à la bête à deux dos avec le maire de Hambury, ce squelette ambulant, la mine de Roland lui causait des émotions plus violentes. Pour ça, il aurait pu la haïr. Alain prit la parole, presque timidement.
« Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, Roland ?
Va-t-on aller fureter là-bas, au Petroleum, sans elle ?» Quand il le rencontrait pour la première fois, beaucoup de gens cataloguaient Alain Jones comme un lourdeau, ce qui était très loin d'être la vérité. Voilà qu'à présent, usant d'une diplomatie que Cuthbert n'aurait jamais pu égaler, il venait de souligner que la première et malheureuse expérience amoureuse de Roland ne les déchargeait pas de leurs responsabilités. Et Roland réagit à cela en se redressant sur sa selle. La forte lumière dorée de cet après-midi-là éclaira son visage de manière contrastée, qui fut un instant hanté par le spectre de l'homme qu'il deviendrait. Cuthbert frissonna à la vision de ce spectre. Ignorant ce qu'il voyait, il savait seulement que c'était épouvantable.
« Les grands chasseurs du cercueil, dit-il, est-ce que tu les as aperçus en ville ?»«
Jonas et Reynolds, répondit Cuthbert. Toujours aucun signe de deux papes. À mon avis, Jonas a dû l'étrangler de dépit et le jeter à la mer du haut de la falaise après la fameuse soirée au bar. »
Roland secoua la tête.
« Jonas a trop besoin d'hommes de confiance pour les gaspiller. Il marche sur la même corde raide que nous. Non, il a juste expédié deux papes au loin pour un bout de temps. »
« Expédier où ça ?» demanda Alain.
« Là où il lui faudra chier dans les buissons et dormir sous la pluie s'il fait mauvais temps. »
Roland eut un bref éclat de rire, sans trace d'humour.
Jonas a lancé deux papes à rebours sur nos traces, c'est plus que probable.
Alain grommela entre ses dents, surpris sans vraiment l'être. Roland, monté sur Flash, contemplait par-delà l'étendue de cette terre superbe, les chevaux qui pâturaient. Il tripotait machinalement la corvette qu'il avait serrée sous sa chemise. Il reporta enfin son regard sur ses deux amis.
« On va attendre encore un peu, » dit-il.
« Peut-être qu'elle changera d'avis. » Roland, commença Alain d'un ton très sérieux sous sa gentillesse. Roland leva la main avant qu'Alain n'aille plus loin.
« Ne doute pas de moi, Alain. » Je parle en digne fils de mon père.
Fort bien.
Alain tendit la main et agrippa brièvement Roland par l'épaule. Quant à Cuthbert, il réservait son jugement.
Roland agirait ou non en digne fils de son père. Cuthbert devinait qu'au point où il en était, Roland savait à peine ce qu'il voulait.
« Tu te souviens de ce que Cort nous disait être la faiblesse principale d'asticot comme nous ?» demanda Roland avec l'ombre d'un sourire.
« Vous foncez sans réfléchir et tombez dans un trou !»
cita Alain imitant la grosse voix de Cort. Ce qui fit rire Cuthbert aux éclats. Le sourire de Roland s'accentua un brin.
« Si fait ?»
Ce sont là des paroles que j'entends me rappeler, les amis. J'irai pas renverser cette charrette pour voir ce qu'elle contient, à moins qu'il n'y ait pas d'autre choix. Suzanne peut encore venir, si on lui laisse le temps de la réflexion. Je crois qu'elle aurait déjà accepté de me rencontrer s'il n'existait pas d'autres contentieux entre nous. Il n'alla pas plus loin, et un court instant, le silence retomba entre eux.
« Je préférerais que nos pères ne nous aient pas envoyés ici, » finit par dire Alain,
même si la décision en revenait au père de Roland, ce qu'aucun des trois n'ignorait.
« On est trop jeunes pour être mêlés à des affaires de ce genre. Il n'a pas assez neigé sur nous. »
« On s'en est très bien sorti le fameux soir au repos, » objecta Cuthbert.
« Grâce à notre entraînement, pas à notre astuce. »
Et on ne nous a pas pris au sérieux pour autant. Ça se reproduira pas deux fois.
Ils ne nous auraient pas expédiés ici, pas plus mon père que les vôtres, s'ils avaient su ce qu'on y trouverait, observa Roland. Maintenant qu'on l'a trouvé,
on baissera pas les bras.
D'accord ?
Alain et Cuthbert opinèrent. Entendu. Ils ne baisseraient pas les bras. Plus aucun doute là-dessus.
Dans tous les cas, il est trop tard pour s'en inquiéter. On va attendre en espérant que Suzanne nous rejoigne. Je préférerais ne pas m'approcher de Sidgo sans quelqu'un d'Ambry qui connaisse la configuration de l'endroit. Mais si De Pape revient, il faudra courir ce risque. Dieu sait ce qu'il a pu découvrir, ou les histoires qu'il inventera pour complaire à Jonas, ou encore ce que Jonas fera une fois qu'ils auront tenu leur palabre. La poudre parlera peut-être.
Après avoir tant tourné autour du pot, ce sera presque un soulagement, dit Cuthbert.
Tu vas lui envoyer un autre billet,
Will Dearborn ? Demanda Alain.
Roland y réfléchit.
Cuthbert paria en son fort intérieur sur la décision de Roland et perdit.
Non, dit-il enfin.
Il nous faut lui donner du temps, aussi dur que cela soit, et espérer que sa curiosité la fera changer d'avis. Là-dessus, il fit tourner Brida Flash en direction du baraquement abandonné qui leur servait pour l'heure de logis. Cuthbert et Alain suivirent. 6. Suzanne travailla dur le reste de ce dimanche, décrottant les écuries, allant chercher de l'eau, lavant les escaliers de haut en bas. Tante Cord l'observa, en silence, partagé entre le doute et l'ahurissement. Suzanne n'avait que faire de ce que ressentait sa tante. Elle cherchait à s'épuiser pour s'épargner une nouvelle nuit d'insomnie. C'était terminé. Will devait le savoir à présent. Et tout était pour le mieux. Ce qui était fait, était fait.
« Vous êtes toquée, petite ?»
fut la seule question que Tante Cord posa à Suzanne quand elle vida le dernier seau d'eau sale derrière la cuisine.
« C'est dimanche. »«
Toqué, pas du tout, » répliqua-t-elle, pète sec, sans lever les yeux. Elle exécuta la première partie de son programme en se mettant au lit à peine la lune levée, les bras rompus, les jambes douloureuses, avec des élancements dans le dos. Mais le sommeil la fuyait toujours. Elle resta couchée, les yeux grands ouverts, malheureuse comme les pierres. Les heures passèrent, la lune se coucha, et Suzanne n'arrivait toujours pas à s'endormir. Elle fixait l'obscurité en se demandant s'il y avait une possibilité, même la plus infime, que son père ait été assassiné, pour lui fermer la bouche et lui clore définitivement les yeux.
Elle en arriva finalement à la même conclusion que Rolland. Si elle n'avait ressenti aucune attirance pour ses yeux ni pour le contact de ses mains et de ses lèvres, elle aurait consenti en un éclair à la rencontre qu'il réclamait, ne serait-ce que pour apaiser le trouble qui s'était emparé de son esprit. Comprenant cela, un soulagement l'envahit et il réussit à s'assoupir. 7. Le lendemain, en fin d'après-midi, alors que Rolland et ses amis se trouvaient au repos des voyageurs, sandwich de bœuf froid arrosé de litres de thé blanc glacé, sans égaler celui de la femme de l'adjoint Dave, il n'était pas mauvais, Chimie entra, revenant d'arroser ses fleurs à l'extérieur. Il était coiffé de sa sombrera rose et affichait un large sourire. Il tenait à la main un petit paquet.
« Salut à vous, petit chasseur du cercueil !» s'écria-t-il gaiement, en les gratifiant d'un salut amusant qui était une bonne imitation du leur.
Cuthbert fut particulièrement réjoui de voir ce salut effectué en tenue de jardinage.
« Vous allez comment ? Bien, j'espère, si fait !»«
Comme eau de pluie en son tonneau, » répondit Cuthbert.
« Mais on n'apprécie pas beaucoup d'être appelé petit chasseur du cercueil, alors tu pourrais peut-être la mettre en veilleuse. D'accord ?»« Si fait, » fit Chimie, pas moins gai pour autant. « Si fait, messire Arthur Heath, bon compagnon qui m'a sauvé la vie. »
Il s'interrompit, soudain perplexe, comme s'il était incapable de se rappeler pourquoi il les avait abordés. Puis son regard s'éclaira, son sourire se fit éclatant, et il tendit le paquet à Rolland.
« C'est pour vous, Will Dearborn. »«
Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ?»«
Des graines, voilà quoi. »«
De ta part, Chimie ?»«
Oh non !»
Rolland prit le paquet, une simple enveloppe qu'on avait pliée et scellée. Il n'y avait rien d'écrit ni au recto ni au verso. Et s'il s'en fiait à ses doigts, il ne sentait pas la présence de graines à l'intérieur. « De la part de qui, alors ?»«
Me souviens plus !»
fit Chimie qui détournait les yeux. Son intelligence était ainsi faite, se dit Rolland, qu'il n'était jamais malheureux très longtemps et se montrait incapable de mentir. Puis, Chimie regarda à nouveau Rolland avec une timidité pleine d'espoir.
« Mais je me rappelle ce que je devais vous dire. »«
Si fait. Alors parle, Chimie. » S'exprimant comme quelqu'un qui récite un texte appris à grand-peine, fier et nerveux à la fois, il lui dit
« Voici les graines que vous avez semées sur l'aplomb. »
Les yeux de Rolland flamboyèrent d'un éclat si sauvage que Chimie recula d'un pas en trébuchant. Il tira vivement sur sa sombrera et, tournant les talons, détala pour se mettre en sécurité auprès de ses fleurs. Chimie aimait bien Will Dearborn et ses amis, en particulier messire Arthur Heath, qui disait parfois des choses qui le faisaient se plier en deux. Mais, à ce moment précis, il vit quelque chose dans les yeux de Will Sy qui l'effraya grandement. À cet instant, il comprit que Will n'était pas moins un tueur que l'homme à la cape ou celui qui avait voulu que Chimie lui nettoie les bottes avec sa langue, ou encore mieux, le vieux Jonas aux cheveux blancs et à la voix tremblotante. Il était aussi mauvais qu'eux, sinon pire. 8. Rolland glissa le prétendu paquet de graines dans sa chemise et ne l'ouvrit pas tant qu'ils ne furent pas tous trois retournés au barca et installés sur le porche. Au loin grommelait la tramée, qui faisait se crisper de nervosité les oreilles de leurs chevaux.
« Eh bien ?»
demanda pour finir Cuthbert, incapable de se réfréner plus longtemps. Rolland sortit l'enveloppe de sa chemise et l'ouvrit en la déchirant. Ce faisant, il songea que Susan avait su exactement quoi dire, à la perfection. Les autres se penchèrent, à l'un à sa gauche, et Cuthbert à sa droite, tandis que Rolland dépliait l'unique morceau de papier. À nouveau, il reconnut l'écriture simple et soignée de Susan. si son message était à peine plus long que le précédent, le contenu en était néanmoins fort différent. Il y a une orangerie à une demi-lieue de la route côté ville de Sitgo. Retrouvez-moi là-bas quand la lune se lèvera. Venez seul. Suzanne. En dessous, en petite capitale non dénuée d'emphase, cette objuration. Brûlez ceci.
On fera le guet, dit Alain.
Roland acquiesça. Si fait. Mais de loin. Puis il brûla le billet de Suzanne. 9. L'orangerie formait un rectangle très bien cultivé d'une dizaine de rangées au bout d'un chemin charretier envahi par les mauvaises herbes. Roland y arriva à la tombée de la nuit, mais une bonne demi-heure avant que la lune du colporteur rapidement déclinante ne se hisse au-dessus de l'horizon une fois encore. Alors que le garçon arpentait à l'aventure l'une des rangées, écoutant les cliquetis de squelettes en provenance du pétroléum au nord, couinement de pistons, grincement d'engrenages, bruit sourd d'arbres moteurs, il fut pris d'un profond mal du pays. C'était la frêle senteur des fleurs d'oranger, strate claire venant coiffer la puanteur plus sombre du pétrole, la responsable. Cette orangerie miniature n'était rien comparée au grand verger de pommiers de la Nouvelle-Canaan, et pourtant, à sa façon, elle soutenait la comparaison. Il y avait ici le même sentiment de dignité et de civilisation, de beaucoup de temps consacré à quelque chose de pas strictement nécessaire. Et dans ce cas-ci, soupçonnait-il de pas très utile non plus. Les oranges cultivées si loin au nord des chaudes latitudes étaient probablement aussi acides que les citrons. Pourtant, quand la brise agita les arbres fruitiers, l'odeur le fit penser à Gilead avec amertume et nostalgie, et pour la première fois, il envisagea l'éventualité de ne jamais revoir son pays natal, devenu un vagabond sur la terre comme cette vieille lune du colporteur dans le ciel. Il l'entendit venir, mais elle était déjà presque sur lui. Si elle avait été une ennemie et non une amie, il aurait eu encore le temps de dégainer et de tirer, mais de justesse. Déjà plein d'admiration, apercevoir son visage à la lueur des étoiles lui réjouit le cœur. Elle fit halte quand il se retourna, le regardant à peine. Elle avait les mains croisées à hauteur de la taille dans une pose enfantine, charmante, d'autant plus qu'elle n'était pas étudiée. Elle les leva quand il fit un pas vers elle, ce qu'il prit à tort pour un geste de frayeur dans cette lumière incertaine. Il s'arrêta, confus. Elle aurait pu ne pas aller plus loin, mais choisit de n'en rien faire. Elle s'avança vers lui, délibérément. Jeune femme élancée en robe d'amazone et bottes noires. Son sombrero dans le dos masquait en partie la tresse de ses cheveux.
« Will Dearborn, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire, » dit-elle d'une voix tremblante. Ils l'embrassaient déjà, et leurs corps s'embrasèrent l'un l'autre, tandis que se levait le dernier quartier famélique de la lune du colporteur.
10. Solitaire dans sa masure là-haut sur le Chaos, Réa était attablée dans sa cuisine, penchée sur la boule de cristal que les grands chasseurs du cercueil lui avaient apportée un mois et demi plus tôt. Sa lumière rose baignait un visage que plus personne n'aurait confondu avec celui d'une jeunette. Une vitalité extraordinaire l'avait portée pendant de nombreuses années. Seuls les plus anciens habitants d'Ambry avaient une petite idée de l'âge réel de la vieille Réa du Chaos et une bien vague idée encore. Mais le cristal était finalement en train de la miner, de la lui boire comme un vampire suce le sang. Dans son dos, la grande pièce de la masure paraissait encore plus miteuse et encombrée que d'habitude. Ces jours, elle n'avait même plus le loisir pour un semblant de ménage. La boule de cristal lui absorbait tout son temps. Quand elle n'y regardait point, elle pensait à y regarder. Et, oh! Quelle chose il y avait déjà vu. Hermod s'enroula autour de l'une de ses jambes décharnées. Il était agité et sifflait, mais elle le remarqua à peine. Elle se pencha davantage encore sur la lueur rose poison du cristal, enchantée de ce qu'elle y voyait. C'était la fille qui était venue la trouver pour qu'elle atteste de son honnêteté, et le jeune homme qu'elle avait vu la première fois qu'elle avait regardé dans le cristal. Celui qu'elle avait pris pour un pistolero jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive de sa jeunesse. Cette fille fantasque qui était venue en chantonnant chez Rhea et s'en était retournée dans un silence plus convenable, avait prouvé son honnêteté et pouvait bien être encore honnête. Il était certain qu'elle embrassait et tripotait ce garçon avec le mélange d'avidité et de timidité d'une vierge. Mais elle ne le resterait plus très longtemps s'il continuait à ce train-là. Et Harthorin ne se préparait-il pas une surprise quand il mettrait sa jeune gueuse prétendument pure dans son lit? Il y avait des façons d'abuser les hommes sur ce point de détail. D'ailleurs, les hommes suppliaient d'être abusés là-dessus. Un dé à coudre de sang de porc faisait joliment l'affaire, mais elle n'en savait rien. Oh, c'était trop bon. Dire qu'elle pouvait voir Mamselle Grandzère en rabattre ici même dans ce merveilleux cristal. Oh, c'était trop bon, trop merveilleux. Elle se pencha encore un peu et ses orbites démesurément caves s'emplirent d'un feu rose. Hermod, constatant qu'elle demeurait imperméable à ses cajoleries, s'en alla ramper inconsolable sur le plancher à chasser les mouches. Moisy s'écarta vivement de lui, crachant des jurons félins, son ombre à six pattes énorme et difforme, projetée sur le mur frappé de lumière par la flambée dans la cheminée. 11. Roland sentit la précipitation du moment se ruer à leur rencontre. Il fit en sorte de se détacher de Suzanne, et elle s'éloigna de lui, les yeux hagards et les joues en feu. Il pouvait distinguer cette rougeur-là même à la clarté de la lune nouvellement levée. Il avait les couilles douloureuses, comme pleines de plomb fondu. Elle se détourna à demi, et Roland vit que son sombrero avait glissé de guingois dans son dos. Il le remit d'aplomb, d'une main tremblante. Après avoir emprisonné ses doigts d'une étreinte aussi brève que forte, elle se pencha pour ramasser ses gants d'écuyère qu'elle avait retirés, désireuse de le toucher, peau contre peau. Quand elle se redressa, le sang reflua brusquement de son visage et elle chancela. Si Roland n'avait pas posé ses mains sur ses épaules pour sauvegarder son équilibre, elle aurait pu tomber. Elle tourna vers lui des yeux pleins de tristesse. « Qu'allons-nous faire ? Oh, Will, qu'allons-nous faire ?»« De notre mieux, lui dit-il, comme nous l'avons toujours fait, tous les deux, comme nos pères nous l'ont appris. »« C'est de la folie !» Roland, qui ne s'était jamais senti autant dans son bon sens de sa vie, même le mal lui ravageant le bas-ventre lui paraissait dans l'ordre raisonnable des choses, ne répondit pas. « Vous savez combien c'est dangereux ?» demanda-t-elle. Et avant qu'il ait pu répliquer, elle continua ainsi. « Si fait, je vois que vous le savez. Si jamais on nous voyait ensemble, ce serait grave. Si l'on nous voyait en train de... comme tout à l'heure. » Elle frissonna. Il tendit la main vers elle et elle recula. « Mieux vaut que nous... Will... « Si jamais il ne pourrait y avoir rien d'autre entre nous que des mamours, à moins que vous n'ayez que ça en tête. »« Vous savez bien que non. » Elle opina. « Avez-vous posté vos amis pour faire le guet ?»« Si fait, » dit-il. Son visage se fendit alors de ce sourire inattendu qu'elle aimait tant. « Mais pas à un endroit d'où il pourrait nous voir. »« Dieu merci, » dit-elle. Avant d'éclater d'un rire quelque peu éperdu et de se rapprocher de lui. De se rapprocher si près qu'il était difficile de ne pas la reprendre dans ses bras. Elle leva des yeux pleins de curiosité vers lui. « Qui êtes-vous vraiment, Will ?»« Celui que je vous ai dit, à peu de choses près. » »« C'est l'ironie de la situation, Suzanne. »
Moi et mes amis, on ne nous a pas expédiés ici parce qu'on s'est saoulés et qu'on a fait les 400 coups du diable, mais pas non plus pour y mettre au jour quelques sinistres complots ou conspirations secrètes. On n'était que des garçons qu'il fallait tenir à l'écart pendant une période dangereuse. Tout ce qui est arrivé depuis... Il secoua la tête pour lui montrer combien il était désemparé, et Suzanne repensa à son père, disant que le cas était comme le vent. Quand cela arrivait, cela pouvait emporter vos volailles, votre maison, votre écurie, votre vie même. Will Dearborn est votre véritable nom ? Il haussa les épaules. Pour un homme, un nom en vaut un autre, j'intuite, si le cœur qui lui correspond est vrai. Suzanne, vous êtes allée aujourd'hui à la maison du maire. Mon ami Richard vous a vu à cheval. Oui, pour les essayages, dit-elle. Je dois être la fille de la moisson cette année. C'est Hart qui en a décidé ainsi. De moi-même, je n'aurais jamais désiré une chose pareille. Vous pourrez témoigner que je vous l'ai dit. Tout ça, c'est de la sottise pure. Et c'est dur pour Olive aussi, j'en réponds. Vous ferez la plus jolie fille de la moisson qu'on ait jamais vue, dit-il. Et l'évidente sincérité de sa voix lui provoqua des picotements de plaisir. Suzanne sentit ses joues s'empourprer à nouveau. La fille de la moisson devait changer 5 fois de costume entre le banquet de midi et le feu de joie du crépuscule, chacun étant plus recherché que le précédent. À Gilead, il y en aurait eu 9. À cet égard, Suzanne ne connaissait pas sa chance. Et elle aurait porté volontiers les 5 pour Roland, eût-il été le gars de la moisson. Celui de cette année, Jamie McCann, était une phase de carême qui servait de doublure à Hartthorin, qui, outre des cheveux gris à foison, avait 40 ans de trop pour tenir ce rôle. Elle aurait encore porté avec plus de bonheur le 6e à son seul bénéfice. Une camisole argentée aux bretelles ultra-minces dont l'ourlet s'arrêtait assez haut sur les cuisses. C'était là une tenue que personne, Maria sa camériste, Conchetta sa couturière et Hartthorin excepté, ne verrait jamais. C'était celle dont elle serait vêtue quand elle irait rejoindre la couche du vieillard, comme sa gueuse, à l'issue de la fête. Pendant que vous étiez là-bas, avez-vous vu ceux qui se font appeler les grands chasseurs du cercueil ? J'ai aperçu Jonas et celui à la cape. Ils se tenaient dans la cour et parlaient ensemble, dit-elle. Et pas de pape ? Le rouquin ? Elle fit non de la tête. Vous connaissez le jeu des Castles, Suzanne ? Si fait ? Mon père m'a montré quand j'étais petite. Alors vous savez que les pièces rouges sont disposées d'un côté du tableau et les blanches de l'autre, qu'elles contournent les buts et progressent les unes vers les autres, furtivement, se mettant à couvert derrière des écrans. Ce qui se passe à Hanbury ressemble beaucoup à ça. Et comme dans une partie de Castles, le problème est maintenant de savoir qui sortira le premier à découvert. Vous comprenez ? Elle opina aussitôt. Au cours du jeu, celui qui contourne le premier sa butte est le plus vulnérable. Dans la vie aussi. Toujours. Mais parfois, rester à couvert est difficile. Mes amis et moi avons compté presque tout ce que nous avons osé compter. Pour compter le reste, les chevaux sur l'aplomb, par exemple. Si fait, justement. Les comtés seraient nous mettre à découvert, ou bien encore les bœufs dont nous avons connaissance. Elle eut un haussement de sourcils éclair. Il n'y a point de bœufs à Hanbury. Vous devez faire erreur. Il n'y a pas d'erreur. Où sont-ils ? Au Rocking Ash. Ses sourcils, maintenant, elle les fronçait, tout en réfléchissant. C'est chez Laslorimer. Si fait, le frère de Kimba. Et ce ne sont pas là les seuls trésors cachés à Hanbury ces jours. Il existe des chariots en surplus, des articles de sellerie en surplus, dissimulés dans des écuries appartenant aux membres de l'association du cavalier. Des caches de ravitaillement. Non, Will. Si. Tout ça et encore davantage. Mais les dénombrer, être vu en train de le faire, c'est se découvrir. C'est risquer d'être encastelé. Les derniers jours ont été plutôt cauchemardesques, à essayer de paraître occupé à des tâches profitables sans approcher de l'aplomb, côté Hanbury, où il y a le plus de danger. C'est de plus en plus dur à faire. Puis, nous avons reçu un message. Un message ? Comment ça ? De qui ?
Mieux vaut que vous ne soyez pas au courant de ces choses, je crois. Mais ça nous a conduit à penser que certaines des réponses que nous cherchons pourraient bien être à Sidgo. Will, croyez-vous que ce qu'on y trouvera peut m'aider à en savoir plus sur ce qui est arrivé à mon pas? Je ne sais pas. C'est possible, je suppose, mais probablement pas. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que j'ai finalement une chance de compter quelque chose d'important sans être vu en train de le faire. Roland jugea son sang suffisamment refroidi pour tendre la main à Suzanne. Et celui de Suzanne s'était lui aussi suffisamment refroidi pour qu'elle le prenne avec confiance. Cependant, elle avait déjà remis son gant. Deux précautions valaient mieux qu'une. « Venez, » dit-elle. « Je connais un sentier. » 12. À la pâle clarté de la lune, Suzanne le guida hors de l'orangerie en direction des grincements et des coups sourds du pétroleum. Ces bruits, titillant l'échine de Roland de picotement, lui faisaient souhaiter avoir en sa possession l'une des armes cachées sous les lames du plancher du baraquement, là-bas, au barca.
Vous avez beau vous fier à moi, Will. Cela ne signifie point que je pourrais vous être d'un grand secours, dit-elle dans un murmure. Toute ma vie, j'ai été à faible portée de Sidgo, mais je pourrais compter sur mes doigts le nombre de fois où je m'y suis rendu effectivement. Si fait, les deux ou trois premières, les amis m'avaient dit chiche. Et les autres? Avec mon pas. Il s'est toujours intéressé au vieux peuple, et Tante Corde ne cessait de lui dire qu'il connaîtrait une mauvaise fin à force d'aller se mêler des vestiges qu'il a laissés derrière lui. Elle avait une boule dans la gorge et ravala ses larmes. Et il a connu une mauvaise fin, bien que je doute fort que le vieux peuple y ait été pour quelque chose. Pauvre pas.
Ils avaient atteint une clôture en fil de fer ébarbé. Au-delà, les dérigues des puits de pétrole se dressaient contre le ciel, telles des sentinelles de la taille de Lord Perth. « Combien marchait encore » avait-il dit. « 19 », lui semblait-il. Le bruit qu'il faisait était épouvantable, celui de monstres en train de s'étouffer. Bien entendu, c'était le genre d'endroit où les gosses se défiaient d'aller faire un tour, une sorte de maison hantée à ciel ouvert. Il écarta deux fils ébarbés pour qu'elle puisse se glisser entre eux, et elle lui rendit la politesse. Au moment où il franchissait la clôture, il aperçut une rangée de cabochons de porcelaine blanche s'alignant verticalement le long du piquet le plus proche. Un fil de fer passait au travers de chacun.
« Vous savez ce que c'est ?»«
Ce que c'était ?» demanda-t-il à Suzanne en tapotant l'un des cabochons.
« Si fait ?» Quand il y avait encore de l'électricité, il en passait dedans, pour tenir les intrus à distance.
Elle ajouta timidement, après un instant de silence, « Je ressens la même chose quand vous me touchez. » Il l'embrassa sur la joue, juste au-dessus de l'oreille. Elle eut un frisson et pressa brièvement de sa main la joue de Roland, avant de se reculer de nouveau. « J'espère que vos amis monteront bien la garde. » « Mais oui.
Vous êtes convenu d'un signal ?»
Le cri de l'engoulevent. Espérons que nous ne l'entendrons pas.
« Si fait,
espérons-le. » Le prenant par la main, elle l'entraîna dans le pétroleum. 13. La première fois que la torchère flamboya devant eux, Will jura entre ses dents. Un juron particulièrement obscène qu'elle n'avait plus entendu depuis la mort de son père, et porta la main qui ne tenait pas celle de Suzanne à sa ceinture.
« Point d'affolement, c'est seulement la chandelle, le bec de gaz. »
Il se détendit lentement.
« On s'en sert, hein ?»«
Si fait ?»« Pour faire marcher quelques machines, des jouets ou tout comme. »« Pour fabriquer de la glace, surtout. » On nous en a offert chez le shérif quand on l'a rencontré. Quand la torchère tira à nouveau sa langue de flamme, jaune vif et bleuâtre au centre, il ne sursauta pas. Il jeta un coup d'œil peu intéressé aux trois gazomètres derrière ce que les habitants d'Ambry appelaient la chandelle. Près de là s'empilaient des bouteilles de gaz rouillées pour le transport.
Vous en avez déjà vu ? Demanda-t-elle.
Il opina. Les baronnies intérieures doivent être pleines de merveilles étranges, dit Suzanne timidement.
Je commence à me dire qu'elles ne sont pas plus étranges que celles de l'arc extérieur, dit-il en se tournant lentement, et désignant un point particulier.
C'est quoi ce bâtiment là-bas ?
Un vestige du vieux peuple ?
Si fait.
À l'est de Sidgon, le sol s'affaissait brusquement selon une pente très boisée qu'un chemin divisé en deux parts égales. Ce chemin était aussi visible sous le clair de lune qu'une raie partageant une chevelure. Presque au bas de la pente s'élevait un bâtiment en ruine cerné de décombres. Ces gravats étaient ce qui restait de nombreuses cheminées d'usines abattues. On pouvait l'extrapoler de la seule qui resta debout. Quoique le vieux peuple ait fait par ailleurs, il avait produit de la fumée à revendre.
Il y avait des choses utiles là-dedans, quand mon pas était encore enfant, dit Suzanne. Du papier, des trucs comme ça. Même quelques encreurs à écrire qui marchaient encore. Au moins, un petit peu de temps, si on les secouait fort.
Elle désigna la gauche du bâtiment où se trouvait un vaste quadrilatère aux pavés effrités et quelques carcasses rouillées qui représentaient l'étrange moyen de locomotion du vieux peuple qui se passait de chevaux. Autrefois, il y avait là-bas des choses qui ressemblaient au gazomètre, mais en beaucoup, beaucoup plus grand, comme d'énormes bidons d'argent.
Si fait.
Ils ne rouillaient point comme ceux qui restent. Je ne comprends pas ce qu'ils ont pu devenir, à moins que quelqu'un ne les ait embarqués pour y stocker des réserves d'eau.
Moi, j'aurais jamais fait une chose pareille.
Ça aurait pu porter malheur, même s'ils n'étaient point contaminés. Elle leva son visage vers le sien, et il baisa sa bouche au clair de lune.
Oh, Will, comme c'est dommage pour vous.
Comme c'est dommage pour nous deux, renchérit-il. S'échangea alors entre eux l'un de ces longs regards douloureux dont seuls les adolescents ont le secret. Détournant finalement les yeux, ils se mirent à avancer, main dans la main. Elle n'arrivait pas à décider ce qui l'effrayait le plus. Les quelques dériques qui pompaient toujours, ou bien les dizaines qui s'étaient tues. Une chose dont elle était sûre, en revanche, c'est qu'aucune puissance terrestre n'aurait pu lui faire franchir la clôture sans un ami présent à ses côtés. Les pompes avaient des sifflements d'asthmatiques. De temps à autre, un cylindre criait comme quelqu'un qu'on poignarde. Par intervalle, la chandelle s'embrasait avec le souffle d'un dragon crachant le feu et allongeait leurs ombres sur le sol devant eux. Suzanne, guettant les deux notes perçantes de l'engoulevent, n'entendait toujours rien. Ils atteignirent une large voie, autrefois dévolue sans doute à l'entretien, qui fendait le pétroléum en deux. Une canalisation d'acier aux joints qui rouillaient courait en son milieu. Elle reposait sur une profonde tranchée de béton, l'arc supérieur de sa circonférence dépassant du sol.
« Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il.
Le tuyau qui amenait le pétrole au bâtiment là-bas, je crois. Mais c'est sans intérêt, il est à sec depuis des années. Grant mit un genou à terre, glissa précautionneusement la main entre la gaine de béton et le flanc rouillé de la canalisation. Suzanne le regarda faire avec nervosité, se mordant la lèvre pour s'empêcher de lancer une remarque qui aurait trahi en elle la faible femme. Et s'il y avait des araignées venimeuses dans cette obscurité oubliée de tous, et si jamais il restait coincé, que ferait-il alors? Cette seconde hypothèse tomba d'elle-même quand elle le vit retirer sa main. Elle était luisante et noire de pétrole. « À sec depuis des années ?» demanda-t-il avec un petit sourire. Elle ne put que secouer la tête, frappée de stupeur. 14. Ils suivirent la canalisation jusqu'à l'endroit où un portail pourrissant barrait la route. Le pipeline, Suzanne voyait maintenant le pétrole s'écouler de ses joints vétustes, même à la maigre lueur du clair de lune, plongeait sous le portail. Ils l'escaladèrent. Elle trouva que la main secourable qu'il lui tendait prenait trop de privauté pour être honnête, mais le moindre contact la mettait en joie.
S'il n'arrête point, ma tête va exploser, comme la chandelle, songea-t-elle. Et elle éclata de rire.
Suzanne ?
C'est rien, Will, les nerfs.
Une fois le portail franchi, ils échangèrent un autre de ces longs regards, puis descendirent la colline. Tout en marchant, Suzanne remarqua une chose bizarre. On avait dépouillé de nombreux pins de leurs branches les plus basses. Marques de coups de hachette et croûtes de résine étaient clairement visibles sous la lune et le tout paraissait récent. Elle montra cela à Will, qui acquiesça en silence. Au bas de la colline, le pipeline se détachait du sol et, soutenu par une série d'arceaux d'acier rouillé, courait encore sur 70 mètres en direction du bâtiment abandonné avant de stopper avec la soudaineté rudimentaire d'une amputation pratiquée sur un champ de bataille. Sous ce point d'arrêt, il y avait une sorte de lac peu profond de pétrole, à moitié sec et collant. Qu'il ne data pas d'hier, Suzanne le déduisait de nombreux cadavres d'oiseaux qui parsemaient sa surface. Ils avaient poussé une reconnaissance, s'étaient englués et avaient dû attendre la mort à loisir et fort peu plaisamment. Elle fixa ce spectacle avec des yeux pleins d'incompréhension, jusqu'à ce que Will lui tapote la jambe. Il s'était accroupi. Elle l'imita, et son genou contre le sien suivit les évolutions de son doigt avec une incrédulité et une confusion croissante. Will lui indiquait des traces, de très grosses traces. Une seule chose pouvait les avoir laissées ici. « Des bœufs, » dit-elle. « Si fait. Ils sont venus de là, » ajouta-t-il en lui montrant l'endroit où la canalisation s'interrompait. « Et ils sont allés... » Il pivota sur ses bottes, toujours accroupi, et désigna la pente là où commençaient les bois. Maintenant qu'il le lui montrait, elle aperçut sans difficulté ce qu'elle aurait dû voir immédiatement, fille de cavalier qu'elle était. On avait tenté, pour la forme, de masquer les traces et le terrain chamboulé par quelque chose de lourd qu'on avait traîné ou fait rouler. Le temps s'était chargé d'aplanir aux trois quarts le désordre, mais les traces étaient toujours distinctes. Suzanne croyait même savoir ce que les bœufs avaient tiré. Et elle vit que Will le savait, lui aussi. Les traces se séparaient en deux fourches à l'extrémité du pipeline. Suzanne et Will Dearborn suivirent celle de droite. Elle ne fut pas surprise de voir des ornières se mêler aux traces des bœufs. Elles n'étaient pas très profondes. L'été avait été marqué par la sécheresse et le sol était presque aussi dur que du ciment. Mais n'en était pas moins là. Pouvoir les discerner encore signifiait qu'on avait déplacé un poids considérable. Si fait, bien entendu. Pourquoi aurait-on eu besoin de bœufs, sinon ? Regardez, dit Will, alors qu'ils approchaient de l'orée de la forêt, au pied de la pente. Elle finit par distinguer ce qui avait attiré son attention, mais elle dut se mettre à quatre pattes pour cela. Quel coup d'œil acéré il avait ! Ça tenait quasiment du surnaturel. Il y avait des empreintes de bottes ici. Sans être récentes, elle l'était beaucoup plus que les traces de bœufs et les ornières creusées par des roues. « Ce sont celles du type à la cape, » fit-il, montrant deux empreintes très nettes. « Reynolds. »«
Will, tu ne veux pas le savoir ?»
Il eut l'air surpris, puis éclata de rire.
« Bien sûr que si. Il marche avec un pied tourné un peu en dedans. Le gauche. Et le voilà. »
Il redessina dans les airs du bout du doigt les empreintes de pas, puis éclata de rire à nouveau en voyant comment elle le dévisageait.
« Ce n'est pas de la sorcellerie, Suzanne, fille de Patrick. Simplement l'art du pisteur. »«
Comment savez-vous autant de choses en étant si jeune ?»
demanda-t-elle.
« Qui êtes-vous, Will ?»
Il se releva et plongea ses yeux au fond des siens. Elle était grande pour une fille.
« Je ne m'appelle pas Will, mais Roland, lui dit-il.
Et à présent, j'ai remis ma vie entre vos mains. »
Cela m'importe peu. Mais peut-être que j'ai mis votre vie en danger également. Vous devez garder le secret le plus absolu. »
Roland, prononça-t-elle, remplie d'étonnement, goûtant ce nom.
Si fait, lequel préférez-vous ?
Le vrai, répondit-elle aussitôt. C'est un noble nom.
Si fait.
Il eut un large sourire de soulagement, ce fameux sourire qui le faisait paraître si jeune. Elle se haussa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Ce baiser, chaste, à bouche close pour commencer, s'épanouit telle une fleur. Il s'ouvrit lentement et s'humecta de rosée. Sentant sa langue effleurer ses lèvres, elle porta la sienne à sa rencontre. Les mains de Roland parcoururent le verso de Suzanne, puis glissèrent à son recto. Il lui effleura les seins, timidement au début, puis remonta le long de leur arrondi jusqu'à la pointe. Il poussa un petit soupir plaintif dans la bouche même de Suzanne. Comme il la serrait de plus près, semant des chapelets de baisers dans son cou, elle sentit la dureté de pierre qui affectait sa personne au-dessous de la boucle de sa ceinture. Un empan de chaleur en fuseau, en parfaite harmonie avec le creuset en fusion, situé exactement à la même place chez elle. Ces deux endroits-là étaient faits l'un pour l'autre, comme elle pour lui et lui pour elle. C'était le cas, après tout. Le cas venu comme le vent, et elle se laisserait volontiers emporter, abandonnant honneur et promesse derrière elle. Elle allait ouvrir la bouche pour en faire part à Roland, quand une sensation singulière mais pleinement persuasive l'enveloppa. Celle qu'on les épiait. C'était ridicule, mais n'en existait pas moins. Elle eut même l'impression qu'elle savait qui les guettait. Elle se détacha de Roland, chancelant sur ses bottes dans les empreintes du passage des bœufs à moitié disparus.
« Fiche-le camp, vieille garce !» souffla-t-elle. « Si d'une façon ou d'une autre tu nous espionnes, fous-nous la paix !»
15. Sur la colline du Kuros, Rhea se recula de la boule de cristal en jurant à voix basse d'un ton si rauque qu'elle évoquait son serpent familier. Si elle ignorait ce qu'avait dit Susan, la boule de verre ne diffusait pas de son mais uniquement des images, elle savait que la jeune fille avait senti sa présence. Et quand cela était arrivé, la vision s'était effacée. Le cristal avait flamboyé d'un rose intense un bref instant, puis s'était obscurci, et aucune des passes qu'elle avait faites au-dessus de lui n'avait eu l'heure de le rallumer.
« Si fait très bien qu'il en soit ainsi, » dit-elle enfin, en renonçant.
Elle revit cette pauvre mijaurée, quoique pas si mijaurée avec ce jeune homme, hein, restant immobile et comme hypnotisée sur le seuil, se souvint de ce qu'elle avait dit à cette fille de faire une fois qu'elle aurait perdu sa virginité, et commença à sourire, toute sa bonne humeur lui étant rendue d'un coup. Car si jamais son pucelage lui était pris par ce jeune vagabond à la place de Hawthorne, très haut maire de Mégis, la comédie serait de qualité supérieure, non ? Assise parmi les ombres de sa masure puante, Rhea se mit à ricaner en caquetant. 16. Roland fixait Suzanne en écarquillant les yeux, tandis qu'elle lui expliquait un peu plus à fond ce qu'il en était de Rhea. Elle laissa de côté l'examen final si humiliant qui était au cœur de la preuve d'honnêteté. Et son désir s'apaisa juste assez pour qu'il retrouve la maîtrise de lui-même. Cela n'avait rien à voir avec la mise en péril de la position que ses amis et lui tâchaient de préserver à Embry, c'est du moins ce qu'il se dit, et tout avec la préservation de celle de Suzanne. C'est sa position à elle qui avait de l'importance, et son honneur davantage encore. « Votre imagination vous a joué un tour, j'imagine ?» lui dit-il une fois qu'elle eut fini. « Je ne crois pas, » fit-elle, un peu fraîchement. « Ou bien votre conscience ?»
Elle baissa les yeux et se tut.
Suzanne, pour rien au monde, je ne voudrais vous blesser.
Et vous m'aimez ? Demanda-t-elle sans relever les yeux.
Si fait, oui.
Alors il vaut mieux que vous ne m'embrassiez plus ni ne me touchiez plus. Ce soir, si vous passez outre, je ne le supporterai pas.
Il opina sans un mot et lui tendit la main.
Elle la prit et ils se remirent à marcher, reprenant la même direction dont ils avaient été si agréablement détournés. Alors qu'ils étaient à une dizaine de mètres de l'orée de la forêt, tous deux aperçurent une lueur métallique en dépit de l'épaisseur du feuillage.
« Trop dense, » songea Suzanne. « Bien trop dense. »
Les branches de pin, bien sûr. Celles qu'on avait taillées dans les arbres plus haut, sur la pente. On les avait entrelacées pour camoufler les grands réservoirs argentés qui avaient disparu de la zone pavée. On avait traîné les 10 conteneurs jusqu'ici. Les bœufs s'étaient chargés du travail, vraisemblablement, où on les avait dissimulés.
Mais pourquoi ?
Roland passa en revue l'alignement des branches de pin, puis s'arrêta et en ôta plusieurs qu'il mit de côté, ce qui créa une ouverture, comme un pas de porte, et il lui fit signe d'entrer. « Ayez l'œil, » dit-il. « Je doute qu'ils aient pris la peine d'installer des pièges ou de tendre des fils, mais mieux vaut être prudent. » Derrière les branches du camouflage, on avait aligné les citernes avec soin, comme des soldats de plomb dans leurs boîtes. Suzanne saisit tout de suite l'une des raisons pour lesquelles on les avait cachées. Elles étaient munies de solides roues en chêne qui lui arrivaient à la poitrine. Chacune de ces roues était cerclée de fer, le tout flambant neuf jusqu'au moyeu, fabriqué sur mesure. Suzanne ne connaissait dans toute la baronnie qu'un seul forgeron capable d'un si beau travail, Brian Hookey, celui qui l'avait accueilli d'un sourire et d'une tape sur l'épaule, comme un compadre, quand elle était allée le trouver avec la sacoche à fer à cheval de son pas, lui battant le flanc. Brian Hookey, qui avait été l'un des meilleurs amis de Pat Delgado. Elle se rappela avoir regardé autour d'elle en songeant que les affaires étaient florissantes pour Cy Hookey. Elle ne s'était donc point trompée. La forge avait eu du travail à revendre. Hookey avait fabriqué des roues et des jantes à foison, et quelqu'un avait dû bien le payer pour ça. Eldred Jonas était l'un des commanditaires possibles. Kim Barrymore a meilleur encore. Et Hart. Suzanne n'arrivait tout bonnement pas à y croire. Hart avait l'esprit, le peu du moins qui lui avait été imparti, occupé d'autres matières cet été-là. Derrière les citernes, il y avait une sorte de passage raboteux. Roland l'arpenta lentement. Tel un prédicateur, les mains croisées au creux des reins, il déchiffra les inscriptions incompréhensibles au dos des citernes. Sidgo, Sunoco, Exxon, Conoco. Il marqua un temps d'arrêt et lut à haute voix en trébuchant sur les mots « Un carburant plus propre pour des lendemains qui chantent. » Et il eut un reniflement de mépris. « Quelle connerie, c'est déjà demain. »
« Roland, Will, je veux dire, elles servent à quoi ?»
Il ne répondit pas tout de suite. Faisant demi-tour, il relongea en sens inverse l'alignement des brillants conteneurs métalliques. On en comptait 14 de ce côté-ci du pipeline, mystérieusement remis en service, et, supposait-elle, le même nombre de l'autre côté. En avançant, Roland tapa du poing le flanc de chacun. Ils rendirent un son mat et sourd. Ils étaient remplis du carburant produit en pure perte par le pétroléum de Sidco.
« On les a équipés il y a déjà quelque temps de ça, j'imagine, » dit-il.
« Je doute que les grands chasseurs du cercueil aient fait ça tout seuls, mais ils ont dû superviser les choses, à commencer par l'ajustement de nouvelles roues pour remplacer les vieilles en caoutchouc complètement pourries, puis le remplissage. On s'est servi des bœufs pour les ranger ici, au bas de la colline, parce que c'était commode, comme ça l'est de laisser les chevaux en surplus courir en liberté sur l'aplomb. Puis, à notre arrivée, il leur a paru prudent de les camoufler. »
On a beau être des mioches idiots, on serait quand même peut-être assez futés pour se poser des questions sur ces 28 chariots à pétrole chargés à plein avec des roues toutes neuves. Alors ils sont venus ici pour les recouvrir de branchages. Jonas, Reynolds et De Pape.
Si fait.
Mais pourquoi ?
Le prenant par le bras, elle lui reposa sa question.
Mais elles servent à quoi ?
À Farson, dit Roland avec un calme qu'il était loin d'éprouver. À l'homme de bien. La filiation sait qu'il a découvert un certain nombre de machines de guerre qui viennent soit du vieux peuple, soit d'un autre où. Cependant, la filiation ne les redoute guère parce qu'elle ne marche pas. Elle se taise. Certains jugent que Farson est fou d'avoir mis toute sa confiance en de pareilles épaves, mais peut-être que ce ne sont point des épaves. Peut-être qu'elles ont juste besoin de carburant. Et peut-être que Farson le sait.
Roland approuva du chef.
Suzanne effleura le flanc de l'une des citernes. Du pétrole noircit ses doigts. Elle les frotta les uns contre les autres et flaira. Puis, se penchant, cueillit une poignée d'herbe pour s'essuyer les mains.
Nos machines ne marchent point avec ça. On a essayé, ça les obstrue.
Roland opina de rechef.
Mes compatriotes du croissant intérieur savent ça aussi.
Et comptent là-dessus.
Mais si Farson s'est donné tant de mal jusqu'à se séparer d'un groupe d'hommes pour venir récupérer ses citernes, ce qui semble le cas, c'est que soit il sait comment le raffiner pour s'en servir, soit qu'il croit le savoir. S'il est capable pour leur livrer bataille d'attirer les forces de l'affiliation dans un cul-de-sac d'où toute retraite rapide est impossible, et s'il peut se servir d'armes machines qu'on fait rouler, il pourrait remporter plus qu'une bataille. Il pourrait massacrer 10 000 combattants à cheval et gagner la guerre.
Mais vos pères sont sûrement au courant de ça. Roland fit non de la tête avec une certaine frustration.
Ce que savait leur père exactement était une énigme. Ce qu'ils faisaient de leur savoir en était une autre. Quelle force les poussait ? La nécessité, la peur ou encore l'orgueil prodigieux que la lignée d'Arthur l'aîné s'était transmis de père en fils en était une troisième. Il ne pouvait lui confier que sa supposition la plus évidente.
Je crois qu'ils n'oseront pas attendre plus longtemps pour porter un coup mortel à Farson. Dans le cas contraire, la filiation pourrirait simplement de l'intérieur. Et si jamais ça arrivait, une bonne partie de l'entre-deux-mondes sombrerait avec elle. Mais elle s'interrompit, se mordit la lèvre, secoua la tête.
Farson en personne doit sûrement savoir, comprendre.
Elle leva sur lui de grands yeux. Adopter les voies du vieux peuple, c'est adopter celle de la mort. Tout le monde sait ça, si fait.
Roland de Gilead se surprit à se souvenir d'un maître queue du nom de Hax, se balançant au bout d'une corde, tandis que les freux picoraient des miettes éparpillées sous les pieds du pendu.
Hax était mort pour Farson, mais avant ça, il avait empoisonné des enfants pour le comte de Farson.
La mort et John Farson ne font qu'un, énonça-t-il.
17. Dans l'orangerie, ils semblaient à nos amants, car on pourrait les appeler ainsi à présent, excepté dans le sens physique du terme, que des heures s'étaient écoulées, mais leur absence n'avait pas duré plus de 45 minutes. La dernière lune d'été, amoindrie mais toujours brillante, continuait à resplendir au-dessus de leur tête. Suzanne le mena le long d'une rangée jusqu'à l'endroit où elle avait mis son cheval à l'attache. Pylone agita la tête en hennissant doucement à la vue de Roland. Ce dernier s'aperçut qu'on l'avait équipé de sorte à le rendre silencieux. On avait matelassé jusqu'à la moindre boucle et les étriers eux-mêmes étaient enveloppés de feutre. Puis il se tourna vers Suzanne.
Qui se souvient des serments de cœur et de la douceur des premiers émois? Nous gardons de notre premier amour un souvenir aussi peu clair que celui des images illusoires engendrées par le délire d'une forte fièvre.
qu'il nous suffise de dire que cette nuit-là, sous cette lune déclinante, Roland Descaines et Suzanne Delgado étaient déchirés par un désir réciproque. Luttant pour garder pied dans ce qu'il leur semblait être le bien, leurs sentiments les balayaient de profonds courants de souffrance et de désespoir. Ainsi s'avançaient-ils l'un vers l'autre, puis se reculaient, se mirant dans les yeux de l'autre avec une fascination impuissante, se rapprochaient à nouveau avant de s'immobiliser. Suzanne se souvenait de ce qu'il lui avait dit avec une sorte d'horreur, qu'il ferait n'importe quoi pour elle, sauf accepter de la partager avec un autre homme. Elle ne voulait, ne pouvait pas, peut-être, rompre la promesse qu'elle avait faite au maire Thorin. Et Roland semblait ne pas vouloir, ou ne pas pouvoir, la rompre à sa place. Et c'était le plus horrible de tout. Aussi fort que souffla le vent du cas, il s'avérait que l'honneur et les promesses qu'ils avaient faites étaient les plus forts. « Qu'allez-vous faire maintenant ? » demanda-t-elle, la bouche sèche. « Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse et que j'en parle avec mes amis. Votre tante vous fera des ennuis quand vous rentrerez chez vous ? Est-ce qu'elle voudra savoir d'où vous venez et ce que vous avez fait ? C'est pour moi que vous vous en faites, Willy, ou bien pour vous et vos plans ? » Il ne répondit pas, se bornant à la fixer. Au bout d'un instant, Suzanne baissa les yeux. « Pardon. C'était méchant de ma part. Non, ma tante ne me fera point de réprimande. Je veux souvent faire du cheval le soir, quoique jamais aussi loin de la maison. » « Et elle n'a aucun moyen de le savoir ?»« Nenny ? » ?»« Ces jours, nous nous manions avec beaucoup de précautions, un peu comme deux barils de poudre sous le même toit. » Elle tendit les mains. Elle avait fourré ses gants dans sa ceinture, et les doigts qui saisirent ceux de Roland étaient glacés.
« Tout ça finira mal, »
murmura-t-elle. « Ne dites pas ça, Suzanne. Si fait, je dois le dire. Mais quoi qu'il arrive, je t'aime, Roland. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa. Quand il libéra ses lèvres, elle lui chuchota à l'oreille, « Si vous m'aimez, alors, aimez-moi jusqu'au bout. Faites-moi trahir ma promesse. » Son cœur cessa de battre pendant un moment interminable où il ne réagit pas, et elle se prit à espérer. Puis il fit non de la tête une seule fois, mais fermement. « Je ne peux pas, Suzanne. Alors votre honneur vous importe plus que l'amour que vous professez avoir pour moi ? Si fait ? Alors qu'il en soit ainsi. » Elle se dégagea de ses bras, se mit à pleurer, et ignorant la main que Roland tendait vers sa botte pour l'aider et sa demande à voix basse d'attendre un peu, elle sauta en selle. Libérant d'un coup sec le nœud coulant qui attachait Pylône, elle le fit virer d'un coup de talon sans éperon. Roland lui adressa une nouvelle supplique, plus fort, mais elle lança Pylône au galop loin de lui avant que son bref accès de fureur ne s'éteigne. Il ne la prendrait pas une fois déflorée, et elle s'était promise à Thorin avant de savoir qu'un Roland foulait la surface de la terre. Les choses étant ainsi, comment osait-il avancer que la perte de son honneur et la honte qui s'en suivrait seraient de son seul fait à elle? Plus tard, couchée en proie à l'insomnie, elle prendrait conscience qu'il n'avait rien avancé du tout, et elle n'avait pas encore quitté l'orangerie, que, portant une main à son visage, elle le trouva humide des larmes qu'il avait lui aussi versées. 18. Roland rôda à cheval par les chemins hors la ville, bien après le coucher de la lune, cherchant par là à apaiser quelque peu le déchaînement de ses émotions. Il avait beau s'interroger un certain temps sur ce qu'il allait faire suite à leur découverte à Sidgo, ses pensées glissaient à nouveau vers Suzanne. Avait-il été idiot de ne pas la prendre quand elle désirait l'être ?
de ne pas avoir partagé ce qu'elle désirait partager. Si vous m'aimez, alors aimez-moi jusqu'au bout. Ces paroles avaient manqué, le déchirer en deux. Pourtant, dans les régions les plus enfouies de son cœur, celles où la voix de son père se faisait entendre le plus clairement, il sentait qu'il n'avait pas eu tort. Ce n'était pas non plus une simple question d'honneur, quoi qu'elle ait pu en penser. Mais qu'elle pense ce qu'elle voulait. Mieux valait qu'elle le haïsse un peu, peut-être, que de prendre conscience du danger qu'ils couraient tous deux. Sur le coup de 3 heures du matin, alors qu'il allait tourner bride et rentrer au bar K, il entendit un roulement de sabots s'approcher à vive allure venant de l'ouest. Sans réfléchir à l'importance de sa décision, Roland changea de cap avant d'arrêter Flash derrière une succession de haies laissées à l'abandon. Pendant 10 bonnes minutes, le bruit des sabots continua d'enfler, les sons portaient loin dans le calme profond du petit matin. Et cela suffit à Roland pour pressentir qui chevauchait à bride battue vers Embry 2 heures avant l'aube. Et il ne se trompait pas. La lune s'était couchée, mais il n'eut aucun mal, cependant, malgré les interstices encombrés de ronces de la haie, à reconnaître Roy de Pape. Au lever du jour, les grands chasseurs du cercueil seraient à nouveau 3. Roland, remettant Flash dans sa direction initiale, courut rejoindre ses amis.